Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Les Antipodes.
Et salut à tous, bonsoir, je suis Hop et vous écoutez le Rendez-vous l'étrange épisode 18. Et ce soir nous sommes en compagnie de Kurt. Salut Kurt, tu vas bien?
Salut, bonsoir, ça va et toi?
Eh ben ça va nickel, on a eu des soucis techniques un peu au dernier moment, mais a priori ça a l'air de bien se passer.
Ça tient. Je sais pas combien de temps ça tiendra. A priori, là, si on a fait les dix premières minutes en off, ça devrait tenir le reste de la soirée, je pense.
Ouais. Je crois que t'as eu une petite déconvenue au opérateur, là. Mais t'es là, t'es présent. En tout cas, merci. Hein. C'est cool que t'aies accepté l'invite. Surtout que t'es venu déjà dans l'un des premiers épisodes. Épisode 3, je crois, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises.
Ouais. C'était l'épisode 4.
Tu nous avais raconté l'histoire du gars qui avait été retrouvé sur la plage, là.
Exact.
Tu te rappelles? Et qui avait été résolue.
Oui, tu me l'as appris il y a pas longtemps.
Elle a été résolue et on sait l'identité du mec. Donc c'est assez ouf, quoi.
Et du coup, cette histoire a perdu tout son charme.
Bah ouais, mais à l'époque on le savait pas. Donc
c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un update quand même, peut-être dans un petit épisode à part, juste un petit audio, je sais pas, pour expliquer le fin mot de l'histoire. Ça pourrait être chouette. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont rejoint la communauté sur Patreon depuis le dernier épisode, même depuis l'épisode d'avant, parce que dans le dernier épisode, j'ai zappé de vous remercier. Donc merci Farah, Marine, Yuki, Kalou, Emily, Maud, Utopia, Istajoy, Chloé, Roline, Mathilde, Mathieu, Mélanite, encore Chloé, Damien et Atomichael. Ça fait du monde, ça fait super plaisir. Et merci aussi à Rémi, Raven, Rildo et El Barbu que je remercie à chaque épisode parce qu'ils ont choisi le palier Rendez-vous Ultra. Et c'est, ils deviennent donc des producteurs de l'épisode, du podcast. Donc voilà, ça c'était pour la partie soutien. Ok, donc de quoi tu vas nous parler ce soir, Kurt?
Du coup, ce soir, je vais vous parler d'une histoire qui a eu lieu en Allemagne, qui a commencé dans les années 90 et qui a trouvé son dénouement au début des années 2010. Alors, je pense que peut-être cette histoire va parler à certains d'entre vous, et du coup, dans le chat, là, j'ai pas accès au chat, je me suis pas connecté, mais s'il y a des gens qui connaissent déjà cette histoire, s'il vous plaît, ne spoilez personne. Le nom de cette histoire, c'est le fantôme d'El Brown. une affaire de true crime allemande des années 93, des années 90. Avec un rebondissement de fin d'enquête incroyable.
Ok, bah là tu donnes clairement envie. Moi, je vais parler d'un musicien qui est devenu une légende après avoir vendu son âme au diable. Et donc voilà, donc je te propose de commencer.
Donc j'ai intitulé cette histoire « Le fantôme d'El Brown, 15 ans de track ». L'histoire que je vais vous raconter donc démarre le 25 avril 2007. Donc c'est l'histoire de deux flics en fait en Allemagne, Michel Kaiswetter et Martin, j'ai pas son nom de famille à lui. C'est deux agents de police allemands en fait qui patrouillent à bord de leur véhicule et ce 25 avril 2007 donc autour de 14h, ils s'arrêtent pour prendre une pause déjeuner sur un grand parking d'El Brown qui est une ville d'Allemagne que je ne saurais pas situer parce que vraiment j'ai des compétences en géographie allemande qui sont pas folles. Donc ces deux policiers sont en train de déguster probablement un bon sandwich quand les deux policiers en fait sont attaqués par un duo armé. Le duo armé tire en fait sans que les policiers n'aient eu le temps de répliquer et Michel, la flic et Martin sont tous les deux touchés à la tête. par les tirs. Michelle, elle meurt quasi instantanément, tandis que Martin, lui, qui était assis sur le siège passager, il est grièvement blessé. Il survit à l'attaque, mais il est tellement grièvement blessé en fait que les médecins vont le mettre dans le coma et qu'il va y passer de nombreux mois en service de réanimation. Lorsque la police arrive sur place avec les ambulances, les deux policiers gisent par terre à côté de leur voiture et ils s'aperçoivent que leurs armes de poing et leurs menottes ont été volées. Le 1er juin de cette même année, du coup, la voiture des victimes, en fait, qui a été passée au peigne fin, révèle une trace ADN, une empreinte ADN qui match avec personne de connu dans leur fichier. Mais les policiers découvrent que non seulement du coup l'ADN est féminin, c'est l'ADN d'une femme, mais qu'en plus, il lie cette affaire à une quantité incroyable de meurtres et de délits qui remontent au début des années 90 et qui ont, au moment de l'enquête, au moment où l'attaque a eu lieu, qui n'ont pas été résolus encore. Donc possiblement ce meurtre a été commis par une femme qui, en plus de ça, est une tueuse en série. Donc quand je parle de plein de meurtres et de délits irrésolus, en fait on parle de 7 meurtres au total et 32 crimes en tout, et ces crimes ils ont lieu principalement en Allemagne, mais il y en a eu aussi en Autriche et en France, donc c'est une tueuse qui voyage beaucoup. Évidemment, à la suite de ça, les flics, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent avec impatience que Martin, le deuxième flic en fait qui a été touché, se réveille de son coma pour qu'il puisse l'interroger. Mmh. Donc son coma va durer un certain temps et il va effectivement se réveiller. Le problème, c'est qu'il va garder absolument aucun souvenir de l'attaque parce que la blessure en fait à la tête a entraîné une forme d'amnésie vraiment qui lui a retiré tous les souvenirs du moment de l'attaque. Donc de ce côté-là, les flics auront absolument aucune information sur la femme en question et sur ses complices parce qu'ils étaient deux.
Ah, parce qu'on le sait qu'ils étaient deux à ce moment-là.
Oui, il y a des témoins en fait qui sont plutôt loin de la scène du crime, mais qui savent en fait qu'ils étaient deux. Et plus tard, l'information se sera révélée exacte parce qu'on va retrouver ces deux personnes en question. Enfin, okay. On pense que c'est ces deux personnes. Justement, en 2011, en fait, les armes volées sur les policiers. Donc c'est des, je sais pas si je vais bien le prononcer, j'ai un peu peur. Un Eclair Koch P2000 sont retrouvés sur deux gars qui s'appellent Uwe, les deux. Il y a Uwe Bonhart et Uwe Mandlos. C'est deux membres d'un groupuscule néo-nazi qui viennent de participer à un braquage d'une banque qui a un peu mal tourné. Donc les flics sont dépêchés et ces deux Uwe, en fait, malheureusement, on n'arrivera à rien tirer d'eux parce que ils meurent tous les deux au moment du braquage de cette banque dans un incendie qu'ils ont eux-mêmes déclenché. On suppose même qu'ils se sont suicidés en fait pour pas se faire prendre. Donc, okay. On sait, en fait, on arrive à les lier, grâce aux armes qui ont été retrouvées, au meurtre des deux flics en 2007, mais on n'est pas en mesure de dire s'ils étaient des simples complices, si c'était eux deux. On n'est pas en mesure, ou alors si simplement ils ont racheté l'arme à quelqu'un, peut-être, ou quelqu'un leur a donné, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les armes des flics, en fait, ont été retrouvées sur leur cadavre, et on ne peut pas les interroger parce qu'ils sont morts, tout simplement, et du coup... Oui. Du coup, ça entoure encore cette histoire d'une aura assez mystérieuse. Au moment, donc là, on retourne un peu en 2007, donc vraiment au moment où l'attaque a lieu. Cette attaque, en fait, elle révèle au grand public l'existence d'une meurtrière en série, parce qu'en fait, depuis des années, la meurtrière en question, elle a sévi, mais sur un temps tellement long, en fait, il s'est écoulé plusieurs années entre deux crimes, que finalement, il n'y a pas eu de psychose à proprement parler. C'est seulement quand les deux flics, là, sont tués en pleine rue, en pleine journée, que les journaux, en fait, s'emparent un peu de l'histoire et inventent le nom, donc, du fantôme d'Elbrown. Et c'est comme ça qu'on appellera la tueuse, désormais.
Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait un vrai fantôme dans son histoire, à la base. Ok.
Ah désolé. C'est vrai que le nom porte à confusion, hein. D'autant que moi j'aime bien les histoires de fantômes, donc j'aurais pu raconter une histoire de fantôme effectivement.
Ouais, clairement.
Mais
ouais.
Tu verras que le nom fantôme va peut-être avoir une incidence sur la suite de l'enquête.
Ok.
Donc voilà, cette histoire a fait beaucoup de bruit. Enfin, le grand public en fait se rend compte que probablement sur le territoire allemand, il y a une tueuse en série qui se balade, qui a fait beaucoup de victimes et en plus qui est active depuis un certain temps déjà. Les journaux, donc, comme je te disais, sont emparés de l'affaire. Et en 2009, en janvier 2009, en Allemagne, il y a une prime de 300 000 euros qui est promise à celui ou à celle qui livrera un indice qui sera déterminant dans l'enquête sur la tueuse. Évidemment, ces 300 000 euros n'ont jamais été touchés par qui que ce soit parce que, ben, elle est, pour ainsi dire, insaisissable, cette tueuse.
OK.
On va remonter un peu le temps maintenant. Donc, tout à l'heure, je disais que cette histoire commençait le 25 avril 2007, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, cette histoire pour le grand public, elle commence là, mais pour les flics, en fait, cette histoire, elle remonte à 1993. Donc, c'est la date, le 25 mai, c'est la date du tout premier meurtre qu'on peut lier, en fait, à cette tueuse. Le 25 mai 93, dans une ville ou un village qui s'appelle Idar-Oberstein, donc en Allemagne toujours, Liselotte, là, les noms, vraiment, ça va être compliqué, je suis désolé, hein. Liselotte Schillinger, c'est une retraitée de 62 ans qui est retrouvée morte chez elle, étranglée par derrière avec ce qui semblerait être la ficelle d'un bouquet de fleurs qu'elle venait d'acheter. Donc vraiment, c'est atroce. Elle s'achète un bouquet de fleurs et la tueuse, en l'occurrence, en fait, s'est servie du fil qui attachait les fleurs, en fait, pour l'étrangler avec.
Elle est forte, hein, elle est balèze, hein.
Elle est balèze, elle est extrêmement balèze. Après, ouais. Bon, une retraitée de 62 ans, je sais pas, j'ai jamais testé, mais c'est probablement plus facile à étrangler qu'une femme. Là, je passe pour un psychopathe absolu, je suis navré. Mais du coup, ouais, elle a été tuée avec cette ficelle et on se rend compte donc les flics retrouvent un reçu chez elle et dans ce reçu, on s'aperçoit qu'elle a retiré, mais vraiment le jour de son meurtre, une grosse quantité d'argent et que cet argent a tout simplement disparu. On ne sait pas où est parti cet argent, donc on suppose que la tueuse l'a embarqué en partant. La porte, ça c'est un élément un peu troublant, n'a pas été fracturée et donc les enquêteurs, en fait, ils vont faire plusieurs hypothèses et notamment une des premières hypothèses, donc, c'est que la victime connaissait sa meurtrière et si c'est pas le cas, en fait, ils pensent que probablement la meurtrière faisait du porte-à-porte, était une colporteuse. Je sais pas si ça existe encore beaucoup, les gens qui font du porte-à-porte, mais à l'époque, c'était plutôt répandu.
Et là, c'était le meurtre en 1993, c'est ça?
Ça, c'est le tout premier meurtre, en fait, qu'on a réussi, grâce à l'ADN, à lier à cette tueuse. Faut savoir qu'en 93, on n'est pas tout à fait au balbutiement de l'ADN, en fait, dans les affaires criminelles, mais presque. La première résolution d'un crime qui a été faite grâce à l'ADN, en fait, ça remonte à 86, donc quelques années avant seulement.
Okay.
Dans l'affaire Colin Pitchfork, on a réussi à dédouaner un type qui s'était, je sais pas pourquoi d'ailleurs, qui avait avoué en fait un meurtre et un viol, alors que finalement l'ADN a prouvé que c'était pas lui du tout. C'est une des premières affaires criminelles qui a été résolue grâce à l'ADN, du coup. Donc vraiment, 93, on n'est pas très longtemps après, hein.
C'est ouf d'ailleurs que la première affaire elle a été utilisée pour dédouaner quelqu'un plutôt que l'inverse.
Ouais, complètement. Elle a d'abord non seulement elle a servi deux fois, enfin l'ADN a servi deux fois parce que du coup ça a écarté un suspect qui était pas vraiment un suspect vu que le gars s'était lui-même dénoncé, mais en plus quelques années après, un ou deux ans après qu'on ait écarté ce suspect, l'ADN a permis de trouver donc l'authentique suspect qui lui s'appelle Colin Pitchfork,
okay.
Et qui a donné son nom à cette affaire d'ailleurs. Donc l'ADN a servi deux fois dans cette histoire et c'était la première histoire criminelle résolue grâce à l'ADN. Donc ça remonte à, mes calculs sont bons, à 5 ans avant le meurtre de Liselotte Schillinger. Donc c'est vraiment très récent.
Okay.
C'est-à-dire que au tout début, en fait, même si on a commencé à utiliser de l'ADN pour résoudre des enquêtes criminelles, ça coûtait extrêmement cher et c'était pas encore très répandu et surtout c'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui.
Okay.
Donc voilà, donc grâce à cet ADN qu'on retrouve en fait, les flics se rendent compte que c'est une meurtrière qui a frappé puisque du coup à l'époque on pouvait pas tirer grand chose de l'ADN, mais ce dont on était sûr, en fait, c'est, enfin, on pouvait savoir s'il s'agissait d'un homme, de l'ADN d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est là qu'on découvre que le tueur est en fait une tueuse.
OK.
En 98, donc là, on est 5 ans après ce meurtre, en fait. Donc, ça fait déjà un certain temps. L'Allemagne met en place un fichier d'empreintes génétiques nationales. Et du coup, un peu comme ce qu'on a en France maintenant aussi, la FNAIG, si je me trompe pas. Et du coup, le fait d'avoir créé ce fichier, en fait, ça permet de relier un meurtre qui se passe le 26 mars 2001. Donc 8 ans après le premier meurtre, dans un petit village qui se situe à peu près à 500 km d'Elbrown et à 500 km de l'autre côté de la première victime. Donc on retrouve un brocanteur du nom de Joseph Valsenbar mort dans sa cuisine. Son crâne a été fracassé par une matraque et le cadavre a aussi été étranglé. Donc vraiment, il y a de l'acharnement. Là, on s'aperçoit que sa porte n'était pas fermée non plus. Donc pareil, il n'y a pas d'effraction. Et les enquêteurs pensent là aussi que des bijoux et de l'argent a disparu. Je ne sais pas comment ils tirent cette conclusion. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver d'où ils tiraient cette conclusion. Ils passent l'appartement du vieux brocanteur au peigne fin et retrouvent donc l'ADN du fantôme d'Elbron.
Ok.
8 ans qui se sont écoulés, en fait, sans aucune nouvelle apparition du fantôme d'Elbron. Et là, en 2001, donc 8 ans après, elle réapparaît à 500 km du premier meurtre et commet un meurtre plus ou moins dans les mêmes circonstances. D'ailleurs, en fait, quand les flics trouvent cet ADN, à l'époque, ils se posent la question de savoir si vraiment elle n'est pas juste une complice, en fait, parce que les meurtres sont tellement violents, en fait, qu'ils supposent de prime abord qu'une femme n'est pas capable de commettre des actes d'une telle cruauté.
Okay.
Dans l'hypothèse où c'est elle la tueuse, les flics, en fait, ils pensent que soit pendant ce laps de temps, elle est partie à l'étranger, soit en fait qu'un événement vraiment du quotidien a perturbé, a stoppé ses activités en fait. La police là pense, je pense, et c'est pas dit dans le texte que j'ai trouvé, dans les textes que j'ai trouvé, mais je pense qu'ils pensent à la maternité.
Ouais, d'accord.
Ils doivent penser qu'en fait elle est devenue maman et que du coup ça l'a éloignée un temps en fait de ses meurtres. Une des autres hypothèses qui est abordée en fait, c'est et notamment à cause des 500 km qui séparent les deux victimes en fait. Et du fait que leur porte était ouverte, donc ils pensent, comme je le disais tout à l'heure, à une colporteuse ou à quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Et du coup, il y a une campagne gigantesque de recensement qui est effectuée dans le pays déjà en 2001 pour retrouver les femmes qui pratiquent ces activités, cette activité de porte-à-porte. Ils retrouvent environ 500 femmes qui correspondent à ce profil. Et toutes, absolument toutes, sont testées en fait. Il y a des prélèvements massifs d'ADN qui sont faits et bah, évidemment, il n'y a pas de résultat.
Ils ont visé vachement large, n'empêche, pour... 500 femmes, tu disais. Et elles ont toutes accepté. Elles ont toutes accepté.
500 femmes, mais ça c'est que le début parce que elles ont toutes accepté. Alors, soit elles ont toutes accepté, soit en Allemagne, peut-être que les lois sont légèrement différentes et qu'elles n'ont pas la possibilité de refuser le test ADN. Je sais pas, je t'avoue. D'autant que 2001, non, bah ça fait, c'est pas si vieux que ça. Hein, ça fait une vingtaine d'années. Peut-être qu'à l'époque les lois étaient différentes. Voilà, et qu'on n'avait pas forcément besoin du consentement des gens pour récupérer l'ADN. Je sais pas, je pourrais pas te dire, j'avoue.
Okay.
La même année, donc en octobre 2001 cette fois, donc en fin d'année, un enfant de 7 ans qui ramassait des châtaignes se pique sur une seringue qui, après analyse, se révèle contenir de l'héroïne. Donc histoire incroyable. Là, pareil, on retrouve des traces ADN en fait sur la seringue et je vous le donne en mille, c'était l'ADN du fantôme d'Elbrown.
Ah, c'est ouf.
Et donc là, pareil, ça emmène les enquêteurs dans des directions totalement folles. Les flics en fait commencent, donc il y a le profil déjà, donc c'est une colporteuse, hein, c'est une femme colporteuse, et là ils se disent mais en fait peut-être qu'elle a aussi un rapport avec le milieu de la drogue, ce qui entraîne encore beaucoup d'itérations dans leur recherche. Ils vont commencer à chercher aussi dans les milieux de la drogue, se casser les dents évidemment, donc c'est très compliqué. En 2001 toujours, donc là j'ai pas de date précise, mais là c'est un peu marrant, l'ADN de la tueuse est retrouvé sur un biscuit qui a été grignoté lors d'un cambriolage dans une caravane. Donc donc vraiment on trouve son ADN n'importe où, c'est incroyable.
Mais par contre, il y a pas une mort
c'est incroyable.
Il y a pas une mort pendant ce cambriolage ?
Non, alors il y a alors il y a pas une mort pendant ce cambriolage, et d'ailleurs c'est un des trucs en fait de cette tueuse en série, c'est que tous ces crimes ne sont pas systématiquement des meurtres ou des... Il y a aussi des petits délits.
Okay.
Et d'ailleurs, en fait, dans les 15 années qui suivent, donc après 2001, là, après le bout de biscuit retrouvé pendant le cambriolage d'une caravane, en fait, ces crimes vont se résumer à pas mal de cambriolages, de vols de voitures. Et du coup, ça désoriente pas mal les flics, en fait, qui, quand ils sont confrontés, tu sais, à un tueur en série... En général, je suis pas flic, mais il y a un schéma en fait qui se dessine, il y a un profil qui se dessine.
Ouais.
Et là, vraiment, il se retrouve face à une dame en fait, qui un coup va tuer, l'autre coup va juste laisser son empreinte génétique sur une bouteille de bière. Enfin, c'est complètement fou sur des seringues.
Mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse super gaffe en fait.
En fait, c'est ça, c'est que 2001. pour avoir regardé un petit peu, c'est pas tout à fait le début de l'ADN, mais si tu veux, je pense que les, entre guillemets, les meurtriers de masse ou les meurtriers sont pas encore très soucieux, en fait, de cacher leur ouais. ADN. Je sais pas s'il est, tu sais, il y a pas encore de fichier national, ou alors il y en a un, mais il est pas vraiment, franchement, très, très développé. Et je pense que l'ADN à l'époque, c'est pas encore un truc qui vraiment, qui fait peur aux gens qui commettent des crimes ou, tu vois. Là où aujourd'hui, par exemple, si vraiment, genre, tu viens de te caser, tu viens de te taper 15 ans de fait entrer l'accusé, de crime, de mission de true crime, en fait, tu sais que la première chose à faire, c'est vraiment de pas laisser de traces d'ADN, quoi, ou pas d'empreintes.
Entre les traces d'ADN, les caméras, il y a trop de trucs maintenant, les traces que tu laisses sur Internet, là, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Hein.
Ben, je pense, d'ailleurs, c'est à se demander pourquoi il y a encore autant de crimes, en fait, dans les pays avec des fichiers ADN, avec des caméras partout. Enfin, il y a encore probablement des failles, mais effectivement, ça devient très, très compliqué d'être un tueur en série aujourd'hui. C'est une carrière qui a plus du tout d'avenir.
C'est bien dommage.
C'est bien dommage. Donc voilà, cette tueuse, enfin une tueuse, elle n'est pas que tueuse, mais on va l'appeler la tueuse en série, la fantôme d'Elbron, en fait, entre 2005 et 2006. Donc, c'est en Autriche qu'elle commet la plupart de ses cambriolages. Donc, c'est assez bizarre, en fait, elle a tendance à voyager un peu, cette dame. Et d'ailleurs, la police, en fait, les journalistes et le grand public en Allemagne, parce que cette affaire n'était pas encore très connue en France à l'époque, l'appelait le fantôme d'Elbron. Mais on a la police allemande l'appelait l'UWP, et ça signifie en français, en gros, c'est les initiales de femme inconnue, personne de sexe féminin inconnu, quelque chose comme ça.
Okay.
Septembre 2004. Là, en fait, ça se passe en France, dans le Jura, dans un village qui s'appelle Arbois. L'ADN de la tueuse en série est retrouvé sur une arme en plastique, un jouet qui appartient à un fils de famille d'une famille de commerçants itinérants qui a subi une séquestration et un vol à main armée. Cette famille a subi un vol à main armée, ils ont été séquestrés, c'est des vendeurs de bijoux, en fait. Ils ont été séquestrés et du coup, à un moment, ils expliquent que parmi les auteurs ou les autrices du vol, en fait, quelqu'un a touché le jouet de l'enfant. Okay. Mais ils sont incapables de dire si c'est un homme ou une femme, ils ne le savent pas parce que tout le monde était cagoulé. Et donc voilà, en fait, on retrouve l'ADN du fantôme d'Elbron sur cette âme, ce jouet en plastique.
Okay.
Dans cette affaire, donc, les quatre auteurs du vol ont été arrêtés. On les a arrêtés, on sait qui c'est.
Excellent.
On a eu beau les interroger pendant des heures et des heures, des jours et des jours même, probablement. Aucun d'eux, donc, n'est une femme, et aucun d'entre eux n'a parlé de la présence d'une femme dans leur équipe de malfrats. C'est-à-dire qu'en fait, ils nient en bloc l'existence d'une femme dans leur équipe.
C'est ouf, ça.
Ils disent qu'elle n'existe pas et qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Ouais, il n'y a pas de femme, quoi. Il n'y avait pas de femme dans leur équipe. Il n'y avait pas de femme pendant le cambriolage et pendant la séquestration. Et donc, on comprend pas trop ce qui se passe. L'affaire prend vraiment une ampleur inédite à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de témoignages qui arrivent de part et d'autre. La plupart des témoins et les portraits robots, en fait, qui ont été faits à l'époque, désignent un homme.
Ok.
Donc là, ça devient assez surprenant et des hypothèses sont émises. Les flics pensent potentiellement que soit on a affaire à une femme soit à une complice mais qui est cachée et que la plupart des témoins n'ont pas vu, soit qu'il s'agit d'une femme qui se déguise en homme. Et la dernière hypothèse, ils pensent que c'est simplement une personne transgenre.
De toute façon, ils ont arrêté les quatre personnes, donc elle est forcément dedans, on est d'accord ?
Pas forcément, c'est possible que l'arme ait été touchée par quelqu'un d'autre avant ou après, on sait pas.
C'est assez fou par contre.
Oui, mais ça peut s'expliquer, et d'ailleurs je pense que quand on viendra à la fin de l'affaire, on pourra en reparler.
Ok, très bien.
Mais du coup, effectivement, les flics, en fait, ils sont vraiment focus. L'ADN, en fait, peut pas mentir. Ça, si vraiment c'est un truc qu'on t'apprend quand tu commences dans la police, et de manière générale, je pense, c'est que l'ADN ne peut pas mentir. Ils se retrouvent un peu perdus, ces flics, parce que eux, ils sont convaincus, et à raison, en fait, qu'il s'agit d'une femme. Mais rien dans les témoignages des gens qui ont assisté à des crimes ou à des délits, rien, en fait, ne désigne une femme. En mai 2005, il y a des gens du voyage qui sont suspectés parce qu'il y a une bagarre qui éclate dans un camp de Rome entre deux frères et il y a des coups de feu qui sont tirés. Donc la police se rend sur les lieux pour calmer la bagarre et surtout, en fait, ils vont fouiller la maison où a eu lieu l'altercation et retrouver dans le mur, en fait, une balle. Et dans cette balle, en fait, qui est fichée dans le mur, ils retrouvent l'ADN de la tueuse en série.
Ok.
Les flics, en fait, là, ils ont fait preuve de vraiment beaucoup trop de zèle. Et le problème, c'est que cette affaire, elle va elle va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques parce qu'en fait, les flics, du coup, vont péter un câble et genre vraiment cerner le camp des itinérants, en fait, des gens du voyage pour récupérer l'ADN d'absolument tout le monde. Hommes, femmes, ils vont s'en foutre et en fait, ils vont fermer le camp, récupérer chacun et chacune des habitants du camp de gens du voyage et tous les passer donc, enfin récupérer leur ADN. Certains des habitants ou des habitantes en fait du village du camp de Rome vont être comment dire interrogés de manière un peu musclée, un peu trop musclée. Enfin, cette histoire va aller très loin en fait, et du coup, la police va devoir présenter des excuses publiques quand le véritable auteur de ces crimes ou la véritable autrice de ces crimes en fait a été retrouvé. Donc ça, c'était en 2005. Donc c'était avant l'histoire d'Elle Brown qui a vraiment fait encore plus exploser l'affaire. En février 2008, donc après le meurtre d'Elle Brown, la police allemande et là, c'est là que l'histoire commence à vraiment devenir un peu chelou. La police allemande repêche un véhicule au fond d'un canal près d'Oppenheim. Le véhicule contient le cadavre de trois Géorgiens qui ont été identifiés plus tard comme des vendeurs de voitures d'occasion. Et en fait, parmi ces trois Géorgiens, deux ont été exécutés d'une balle dans la tête et le troisième a été étranglé.
Okay.
Donc là, il y a trois victimes en fait d'un coup, donc deux par balle et un par strangulation. Les traces ADN, je vais pas vous faire, on va pas faire de suspense. Elles appartiennent au fantôme d'Elle Brown. Ça fait pas de doute, c'est bien elle la meurtrière. Les traces ont été relevées dans la voiture qui a servi à faire disparaître les corps. La même année, donc le 26 octobre 2008, cette fois, donc là la première histoire remonte à février, celle-là au 26 octobre, la tueuse réapparaît à Elle Brown, et là c'est une aide-soignante qui est retrouvée morte, à moitié immergée dans un petit étang. Un peu plus loin, son véhicule est garé et abandonné, donc la police fouille le véhicule, et les policiers trouvent à nouveau l'ADN de la tueuse.
C'est ouf, parce qu'en fait, il n'y a aucun lien entre les affaires, quoi. Tu vois, limite celle avec les Géorgiens dans la voiture, là tu peux te dire ouais, ça pourrait être, je sais pas, un tueur à gages, tu vois, mais après tu m'en racontes une autre qui est où ça matche pas, quoi.
Ça a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être le meurtre des Géorgiens, ça a pas l'air d'être un meurtre de tueuse en série ou de tueur en série. C'est ça sent le règlement fait. De même que le meurtre des flics quand ils lancent, en fait ça sent le règlement de compte. Donc c'est particulier. C'est particulier, mais là on est en février 2008 et donc on est à peu de choses près, on est à un an de la résolution de cette histoire. Et du coup, en fait, la résolution de cette histoire arrive là. Si on va peut-être commencer à en parler, je sais pas si dans le chat il y a des gens qui ont fait émis des hypothèses ou pas, ou s'il y a des gens qui connaissaient l'histoire. Et
alors, du coup, il y a Xali qui connaissait l'histoire, mais elle a réussi à tenir sa langue. Il y a Vanny qui a dit, ça se trouve, c'est un groupe de mecs, mais ils disent à leurs femmes de croquer dans des biscuits sur la scène à chaque fois.
Prends ce pépito, là. Laisse-le traîner dans un coin.
Il y a Striker qui dit, j'ai l'impression que c'est un cerveau criminel, cette femme. On retrouve son ADN dans des cambriolages sans qu'elle se fasse attraper. C'est dingue.
Ouais, c'est dingue parce qu'il y a, si on fait le calcul, il y a 15 ans, d'activité, quand même. Sans se faire péter une seule fois. Et en laissant son ADN partout. Et en faisant n'importe quoi. Parce que on parle de meurtre, mais on parle de tout. Il y a une histoire, en fait, il y a un couple d'Allemands, en fait, qui avait un chalet, un genre de petit chalet dans leur jardin, où ils se retiraient de temps en temps pour boire une petite bière. Et en fait, le fantôme d'Elborn a juste pété leur clôture, pété une fenêtre du petit chalet, et juste s'est servi une bière avant de partir.
C'est génial.
Donc en fait, on a probablement l'histoire selon Bild, en plus c'est un journal allemand qui dit qu'en fait c'est probablement une des plus grandes tueuses en série européennes en fait de ce siècle. Et cette tueuse en série, en fait, elle tue des gens, mais elle vole aussi des bouteilles de bière déjà entamées en plus dans un chalet au bord d'une route. Donc vraiment, elle fait n'importe quoi. Elle fait absolument n'importe quoi, et c'est fou qu'elle soit jamais fait péter, quoi, jusqu'à la résolution en 2009 du crime. Enfin, des crimes.
On dirait que, tu vois, c'est presque un troll, en fait, l'histoire de la bouteille de bière.
Ouais, presque. Presque. En fait, peut-être que, tu vois, par jeu, au bout d'un moment, effectivement, dans la mesure où je pense que les journaux ont commencé à beaucoup parler d'elle, je me dis que potentiellement, elle a collé son ADN absolument partout. De sorte que, en fait, dans une affaire sur trois, s'il y a un prélèvement d'ADN, on va retrouver son ADN, en fait. C'est peut-être un but dans sa vie, c'est de vraiment d'asperger le monde de son ADN. Donc, on arrive à la résolution de cette histoire. Est-ce que vous êtes prêt ou prête?
Allez, dis-nous tout.
En mars 2009, le 26 mars pour être précis, le ministre de la Justice allemande fait une révélation. Ils savent à qui l'ADN appartient. Okay. Ils ont trouvé la porteuse de l'ADN. Sauf que cette personne n'a commis absolument aucun crime.
Ils ont quand même des preuves qu'elle en a commis des crimes.
Ils ont quand même des preuves, effectivement. Effectivement. Mais peut-être que c'est sa défense et qu'elle dit oh non, moi j'étais pas là. C'est peut-être mon ADN, mais j'étais pas là. On ne sait pas. Sauf qu'en fait, effectivement, son ADN a été retrouvé, qui lui appartient bien. Et donc, effectivement, elle va jouer à la carte de l'innocence en disant mais non, mais pas du tout.
J'étais au cinéma.
J'étais pas là. Ouais, c'est ça. En fait, elle a dû générer, je sais pas combien de. Elle a dû se trouver une trentaine d'alibi, je pense, sur 15 ans.
Ça, c'est ouf.
Et les flics ont dû tous les vérifier. Non, en fait, pour eux. En fait, effectivement, il s'avère que, effectivement, cette femme de 71 ans, au moment où on l'a retrouvée, en fait, et qui venait juste de prendre sa retraite, n'a commis aucun des crimes, en fait, pour lesquels elle a été accusée. Et tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Tout démarre un peu avant cette date. En France, il y a un corps brûlé d'un demandeur d'asile, un homme, qui a été retrouvé. Et en fait, donc on fait des analyses ADN, et la séquence, en fait, l'ADN montre que c'est clairement une femme. Donc c'est bizarre. On se dit, mais attendez, on sait que c'est un homme, il n'y a aucun souci là-dessus. Physiquement, on l'a analysé, c'est un homme. Par contre, l'ADN, en fait, qu'on a récupéré sur le corps est l'ADN d'une femme. Donc, ça pose question, en fait. Il commence à se poser des questions sur les écouvillons qui sont utilisés, en fait, pour faire des prélèvements sur les scènes de crime. En fait, on s'aperçoit que les écouvillons qui ont été utilisés par les services de police de France, d'Allemagne et d'Autriche, notamment, sont contaminés. En fait, ils ont été contaminés avant d'être expédiés. Donc, ça pose question. Et effectivement, on commence à supposer que peut-être l'ADN du fantôme d'Elbron n'est pas l'ADN de la tueuse en série, mais celui d'une femme qui travaillerait dans la boîte, en fait, qui fabrique les écouvillons.
Ça veut dire qu'il y a plein d'affaires sans aucun lien, seulement l'ADN d'une personne qui travaillait dans un labo, là. On est d'accord?
Grossièrement, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grossièrement, d'ailleurs, c'est absolument dans les faits ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a utilisé pendant des années, pendant 15 ans, en fait, des écouvillons qui n'étaient pas, en fait, censés être utilisés sur des scènes de crime, qui étaient censés être effectivement stérile, mais si tu veux, entre des écouvillons stériles qui servent à un tas d'autres choses et ceux qui sont utilisés par la police criminelle, doit y avoir certaines normes ou certaines certifications, en fait, qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui peuvent, dans certains cas, du coup, créer ce type de problème. Et du coup, les écouvillons qui étaient utilisés par la police française, allemande et autrichienne, en fait, étaient contaminés. Pendant 15 ans, en fait, la police a utilisé non seulement des écouvillons qui étaient contaminés, mais en plus qui étaient périmés.
C'est ouf. Je pensais que pendant genre 15 ans, elle avait fait son travail et qu'elle contaminait, tu vois, genre sans faire gaffe. Mais non, en fait, c'est juste un batch d'écouvillons qui ont été contaminés une fois et qui ont été utilisés pendant 15 ans.
Alors, c'est plusieurs batchs. C'est plusieurs, peut-être un ou deux batchs d'écouvillons qui ont été utilisés pendant 15 ans, en fait. Si tu veux, je pense que, en grossièrement, alors c'est pas expliqué dans les articles que j'ai lus, mais je sais que, par exemple, à l'hôpital où je travaille, pendant la période de Covid, ça se passait un peu comme ça. On avait des types de batchs qu'on utilisait dans certaines circonstances, des types de découvertes qu'on utilisait dans certaines circonstances, et dans d'autres. Et je sais que, par exemple, pour tester le personnel, quand on se faisait tester, nous, en tant que personnel, en fait, on utilisait des écouvillons qui étaient périmés depuis peu et qui n'avaient pas les mêmes standards de qualité que pour le grand public. Pour une raison que j'ignore, d'ailleurs. Mais grossièrement, c'est probablement ce qui s'est passé, en fait. En gros, la police, les polices européennes ont, pendant plus de 15 ans, en fait, acheté à une boîte qui produisait des écouvillons tout à fait adaptés, en fait, à la police criminelle. Ils ont acheté aussi des boîtes qui ne l'étaient pas, probablement parce qu'elles étaient moins chères. Parce qu'elles étaient périmées et que justement elles étaient moins chères. Et du coup, en fait, ces boîtes d'écouvillons avaient été mal manipulées et portaient des traces d'ADN. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte au terme de toute cette histoire que depuis 15 ans, il n'y avait pas de tueuse en série, que toutes ces histoires, en fait, simplement, elles avaient été réunies par le fait qu'on utilisait la même boîte d'écouvillons, enfin, pas à travers l'Europe, mais en tout cas le même batch, comme tu disais. Toutes ces histoires qui n'avaient en apparence, enfin, qui n'avaient aucun lien, les unes avec les autres, ont été liées.
Le temps qu'ils ont perdu, la police, à être dans des fausses pistes, des fausses directions à cause de ça, l'argent dépensé. Non mais c'est pendant 15 ans quoi.
Ils ont perdu un temps incroyable, d'autant que si tu veux, tout, absolument tout, à l'exception de l'ADN, en fait, leur disait qu'ils se trompaient. C'est-à-dire que les témoins leur disaient, mais attendez, il n'y avait pas de femme sur les lieux du crime. Il n'y avait aucune femme. Moi, j'ai vu des hommes. Et la police, en fait, avait tellement foi dans l'ADN, et c'est normal d'avoir foi dans l'ADN, c'est une science qui est censée être exacte, en fait, que, genre, ils ont repoussé les hypothèses, ils considéraient ça comme des hypothèses farfelues, ou alors ils ont essayé de tordre la réalité, en fait, pour faire entrer leurs hypothèses dans les bonnes cases, en disant, si la femme ressemblait à un homme, c'est que elle était soit déguisée, soit que c'était une femme transgenre, un homme transgenre, pardon.
La problématique, c'est que j'imagine qu'ils ont dû repartir à zéro sur toutes leurs enquêtes, là, qui ont été contaminées sur les 15 dernières années, quoi.
Alors, ils ont été obligés, sauf que c'est 10 fois moins excitant pour le grand public et pour les journaux, en fait, de parler d'une affaire de crime qui date de 15 ans, qui sera probablement jamais résolue. Et du coup, effectivement, j'ai aucune idée, en fait, de si ces histoires ont été résolues, et je pense qu'elles ne l'ont pas été, du coup, parce que à partir du moment où t'as trouvé une trace ADN, je pense que tout le reste, tu peux le foutre en l'air dans une affaire criminelle. 15 ans après, il leur reste juste ça, quoi. Ils ont plus que ça. Cette trace ADN, mais qui n'appartient même pas au tueur ou à la tueuse, en fait. On ne saura jamais qui sont les tueurs des deux premières personnes, par exemple. C'est dramatique. Et puis surtout, ça a fait des ravages, quoi. Donc, il y a le camp de personnes, de gens du voyage dont je t'ai parlé un peu plus tôt, qui a été saccagé par des flics qui étaient convaincus que la tueuse se cachait parmi eux. Pareil, ça a fait beaucoup de cas, ça a créé beaucoup de problèmes, en fait, entre les gens du voyage et la population allemande. Enfin, ça a été catastrophique à plein de niveaux, en fait.
C'est assez fou, en fait, quand t'as le fin mot de l'histoire où tu te dis, en fait, c'était juste une contamination des eaux. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que ça a duré 15 ans, en fait.
C'est ça, ouais. Enfin, moi, ça m'étonne que, justement, ça soit pas produit plus souvent et si sur des périodes encore plus longues, tu vois. Parce que, effectivement, comme je le disais, l'ADN, dans les années 90, c'était un truc tout nouveau. Et très rapidement, en fait, ça a créé, je pense, plein de biais chez les flics, chez les enquêteurs de manière générale. Et peut-être que, au lieu d'aider la police, en fait, l'ADN a parfois, les a parfois envoyés sur des pistes totalement farfelues, quoi. C'est possible qu'il y ait des gens en prison aujourd'hui, que le grand public, de manière générale, soit convaincu du fait qu'ils soient des meurtriers uniquement parce que l'ADN l'a révélé. Et peut-être que, en fait, cet ADN, peut-être qu'il y a eu une galère, tu vois, au moment du prélèvement. Enfin, tout est envisageable, en fait.
Donc là, t'es en train de finir sur une note super triste. Hein.
Je suis désolé. Mais dites-vous que l'ADN a aussi permis de retrouver plein de tueurs et plein de tueuses. Et que l'ADN, c'est super, parce que grâce à l'ADN, tu peux savoir qui sont tes ancêtres. Ça a plein d'applications super cool, en fait. Mais, c'est possible que dans l'eau, il y a eu un peu de merde. Et là, clairement, cette histoire, c'est probable qu'elle soit racontée à tous les officiers en école. C'est tout à fait possible que ce soit un cas d'école maintenant et que, ça serve d'exemple ou de contre-exemple, justement.
Ouais, carrément. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Je connaissais de nom, mais tu vois, je m'étais jamais intéressé à l'histoire en elle-même. Du coup, la fin m'a surpris, je t'avoue, la fin m'a surpris.
Ouais. Ah, mais c'est cool. Et dans le chat, du coup, les gens sont surpris ou ils s'y attendaient plus ou moins?
Ils s'y attendaient pas. Bon, à part Xali, qui connaissait l'histoire. Maintenant, ils font plus confiance à la police, à cause de toi.
Ah. Bon, s'il y avait que ça. Si c'était que pour ça, encore ça irait. C'est pas comme si on avait déjà une confiance absolue en la police. Depuis 2 ou 3 ans, là,
compliqué.
Je pense qu'on a plus trop besoin de ce genre de bail, mais bon. Ça me rappelle d'ailleurs que des voisins ont été cambriolés. Et c'est ouf que pour un simple cambriolage, maintenant les flics ont vraiment une armada. Enfin, ils ont toute une valise complète. C'est très technique, en fait, avec plein d'outils, de trucs pour récupérer de l'ADN et tout. Et j'ai assisté à ça une fois.
Bah, c'est impressionnant, mais après, quand c'est contaminé,
Ouais. Non, c'est vrai que... Oui, ça sert à que dalle, en fait. Ça
mais bien, bien chouette ton histoire. C'est vraiment, vraiment cool. Et je m'imaginais tellement un cerveau derrière tout ça, tu sais, genre une meuf trop intelligente, tu vois, qui laisse des traces fait exprès, qui troll un peu. Et en fait, non, c'était juste contamination, quoi, quelqu'un qui a mal fait son travail, quoi.
Complètement. Et cette histoire, elle est d'autant plus fascinante qu'en plus, là, tu sais, je te parlais au début des deux Uwe Bonhart et Mundlos. C'est deux membres en fait d'un groupuscule néo-nazi qui, eux, en l'occurrence, ont vraiment fait beaucoup de victimes en Allemagne dans ces années-là, en fait. Et du coup, ces deux histoires sont liées parce que, enfin, là, ça mériterait aussi, je pense, un épisode à part entière. Alors pas un épisode de Rendez-vous de l'étrange parce que il y a rien d'étrange, mais je veux dire, en fait, cette histoire réunit plein d'autres histoires complètement fascinantes. Et je pense que peut-être si dans Obscurum je me mets à parler de true crime, j'aimerais bien faire un épisode complet, mais vraiment très fouillé sur cette histoire parce que là, j'ai dû louper plein d'éléments et j'ai dû faire un tri aussi. Mais il y a vraiment c'est passionnant je pense à étudier ce genre de cas.
Bah trop bien. Merci beaucoup hein, Kurt. Et si tu veux moi je te propose de faire mon affaire.
Avec plaisir.
Je vais vous lancer une petite musique. I went to the crossroads, fell down on my knees. Est-ce que tu connais cette chanson ?
Pas du tout.
Et pourtant, l'homme qui l'a écrite et qui l'interprète, il est considéré comme une légende du blues. Il s'appelle Robert Johnson et c'est l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique. C'est une source d'inspiration pour des artistes comme Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan ou encore Eric Clapton. En 2003, il a été classé 5e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Et pourtant, la jeunesse de Robert a été chaotique. Rien le prédestinait à ce statut de légende. Rien, sauf peut-être un pacte avec le diable. Et donc c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir. Un peu de contexte d'abord. Hein. Robert Johnson, il est né en 1911 dans le delta du Mississippi. Et à cette époque, une grande partie de la population noire était employée dans les champs. Ouais, je l'ai pas précisé, mais Robert Johnson était noir. Sa mère, Julia Dotz, a fréquenté un bûcheron du nom de Noah Johnson, alors que son mari était absent. Et de cette relation est né Robert Johnson. Il va pas connaître son père, et il va vivre avec sa mère. Il va vivre avec aussi son beau-père, ses frères et sœurs. Ils vont énormément voyager durant son enfance, parce que le travail dans les champs, bah, c'est assez saisonnier. Ça implique de beaucoup bouger pour toujours avoir du travail. Robert, lui, s'est intéressé très tôt à la musique. Dès l'âge de 7 ans, il a commencé à toucher un peu aux instruments qu'il croisait sur sa route. C'est d'abord sur l'harmonica qu'il a acheté son dévolu. Au début de l'adolescence, il apprend l'identité de son véritable père. Il commence à se faire appeler Johnson, du coup comme le nom de son père. Il va à l'école, mais vers 12 ans, il se voit obligé de la quitter à cause de problèmes de vue. Et donc, il est obligé de travailler avec sa famille dans les champs de coton. Parce qu'à l'époque, les lunettes, c'était pas remboursé par la sécu. À la fin des années 20, il se met à la guitare et fabrique même un bras pour pouvoir jouer en même temps de l'harmonica et de la guitare et chanter. Il côtoie même les bluesmen assez connus de l'époque, comme Willie Brown et Charlie Patton, qui lui apprennent 2-3 trucs pour le faire progresser. Mais malgré tout ça, lui, il se voit pas vraiment comme un musicien, comme un chanteur, mais plutôt comme un paysan qui joue dans les plantations quand il a le temps. Donc, il décide de se ranger, de se marier et de fonder une famille. Là, on est en février 1929, il a 17 ans. Il se marie avec une fille prénommée Virginia Travis, qui elle a 15 ans. Bah, à l'époque, hein, il n'y avait pas le temps de déconner, ça va super vite quoi. Il s'installe dans une maison sur une plantation à Robinsonville avec sa sœur aînée qui s'appelle Bessie et également le mari de Bessie. Donc, ils étaient deux couples dans cette maison. Lors du mariage, Robert Johnson, il fait une promesse à sa femme, à Virginia. Il lui dit « Ok, j'arrête la musique. » Parce que d'une part, c'était pas super bien vu à l'époque. Et aussi, c'était de toute façon une condition pour que les parents de sa femme acceptent qu'elle se marie avec lui. Donc, Robert, il décide de ranger sa guitare dans un placard et de pleinement vivre sa vie auprès de sa femme et de ses chants, en fait. Et donc, Virginia tombe enceinte durant l'été 1929. Mais malheureusement, elle meurt avec leur enfant lors de l'accouchement en avril 1930. Elle avait seulement 16 ans. Bon là, du coup dur pour Robert.
Ah merde.
Il vit la période la plus sombre de son existence. Il avait une femme qu'il aimait, il s'apprêtait à devenir père, et du jour au lendemain, plus rien. À ce moment-là, il n'arrive pas à retourner vivre dans sa maison, parce que bah, voilà, ça lui rappelle trop de souvenirs avec, avec sa femme. Du coup, il part vivre chez sa mère et son beau-père, et c'est aussi à ce moment-là qu'il ressort sa guitare. Parce que elle, malgré tous les coups durs qu'il avait vécu, bah, elle est toujours là, quoi, sa guitare. Il s'y met donc corps et âme, avec cette fois la détermination de devenir un vrai musicien, plus seulement le paysan dans les champs qui fait de la musique pour amuser la galerie, quoi. Et ça tombe bien, parce que dans la ville où il vit, il y a également un musicien dont il est super fan et qui fait énormément de concerts. Le musicien en question, il s'appelle Son House. Donc là, Robert, il est méga déter, quoi. Il décide d'approcher Son House à la fin d'un des concerts et il lui dit qu'il peut jouer un truc pour lui à la guitare. Et du coup, Son House, il accepte. Et donc, Robert commence à jouer. Sauf que là, nouveau coup dur pour Robert. Son House, il lui dit, il l'arrête direct. Il lui dit clairement qu'il a jamais rien entendu d'aussi mauvais, quoi. Et qu'il fait fuir les gens. Donc, pas ouf.
Aïe.
Pas ouf. Alors, il termine quand même sur une note un petit peu plus positive en lui disant qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'harmonica. Mais voilà, t'imagines bien que Robert, il est un petit peu vexé. Voilà, il était à fond dans la guitare, quoi.
Ouais.
Surtout que ça venait quand même de la personne bah, dont il est super fan, quoi.
Bah, j'avoue, entre la guitare et l'harmonica, il y a quand même une sacrée différence de classe, non?
Bah oui, parce que même quand t'as jamais fait d'harmonica, t'arrives à faire des trucs stylés à l'harmonica. Parfois, il faut pas rencontrer ses idoles. Bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que là, c'est un peu gros coup dur, quoi. Là, c'était Robert. Hein. Putain, du coup, je sais plus où j'en suis. Ouais, donc il doit se concentrer sur l'harmonica. Donc Robert, il est vexé parce que voilà, ça vient de Son House. Il est super fan. Tellement vexé qu'il décide de quitter la ville avec sa guitare, prétextant qu'il veut retrouver la trace de son père. Et il dit au revoir à personne. Il se barre comme ça. Et je fais un petit fast-forward. Il revient, finalement, 2 ans plus tard, à Robinsonville. Il va voir directement Son House. Il lui refait le même coup. Il dit « Ouais, est-ce que je peux jouer de la guitare, tout ça ?» Et tu vois, Son House, il s'en rappelle encore. Du coup, il est un petit peu... voilà, il est pas chaud, quoi. Il est un peu réticent à le laisser jouer. Mais tu vois, vu que il est à fond, Robert, il insiste. Donc, il laisse faire. Et là, devant lui, il a plus du tout le même guitariste. Là, Robert Johnson... il joue comme un dieu.
Oh.
Son House, il est émerveillé. Il se dit qu'il est dépassé, quoi, par son talent. Il comprend pas comment il a pu faire autant de progrès en si peu de temps. Et c'est Robert Johnson lui-même qui va expliquer la raison à ses amis un soir. Et c'est cette raison qui va, en particulier, le propulser au rang de légende. Je vais te lire son témoignage. Enfin, la légende.
Allez,
quoi.
Vas-y.
Un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans les alentours de Clarksdale, dans le Mississippi, ayant perdu son chemin, il s'est arrêté à un carrefour. Alors qu'il commençait à s'endormir, une brise fraîche l'a réveillé. Il a alors vu au-dessus de lui une ombre immense portant un long chapeau. Effrayé et ne pouvant identifier qui était cette apparition, Johnson resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha sur lui, prit sa guitare, l'accorda et joua quelques notes divines avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du sud.
Mmh.
Voilà. Selon Robert Johnson, il venait de pactiser avec le diable pour devenir le plus grand musicien de tous les temps. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Robert était devenu effectivement excellent, quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Bah, c'est étonnant, cette histoire. Mais ça, c'est qui le rapporte, du coup ?
Cette histoire, c'est Robert Johnson qui la raconte.
Lui-même, ok, d'accord.
Ouais.
Ok. Et oui, c'est particulier, du coup. Il s'est écoulé 2 ans, tu disais, c'est ça ?
Il s'est écoulé 2 ans, ouais, entre les deux fois avec Robert, avec Son House.
Mm-hmm. Alors, soit il s'est vraiment entraîné du feu de Dieu, et je sais pas si c'est possible. Moi, pour être honnête, j'ai essayé de m'entraîner à la guitare et c'était catastrophique. Vraiment, genre 2 ans, je me demande si c'est suffisant pour devenir un dieu de la guitare.
Ouais.
Donc ça a tendance à titiller ma curiosité, ouais.
Ok. Bah, on continue. Bah,
tu fais de la guitare toi-même?
Ouais, je fais de la guitare, mais après, j'en ai toujours fait en mode, tu sais, je fais des accords vite fait, je chante dessus, mais après, tu vois, je peux pas te faire un solo de 10 minutes super stylé, quoi.
Ouais, endiablé.
Exactement. Donc, j'en étais où? Oui, donc, Robert, à son retour, il joue beaucoup sur ça, il construit son personnage et sa légende autour de ça. Comme la communauté noire, à l'époque, était très croyante et portée sur le vaudou, bah, son histoire, elle a vachement pris en crédibilité. Parce que tout le monde était sûr que c'était comme ça qu'il était passé de joueur médiocre à prodige de la guitare. Surtout qu'à cette époque, le blues était considéré par le christianisme comme la musique du diable. Et que dans le vaudou, un esprit qui s'appelle Papa Legba, autrement dit le maître du carrefour, eh ben, il était considéré comme le diable. Parce que c'est dans un carrefour qu'il a rencontré d'ailleurs cette silhouette. Donc, ça matche plutôt bien, ça matche plutôt bien avec son histoire. Mais nous, on va pas quand même s'arrêter à cette version de l'histoire. On veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors, est-ce que Robert a réellement vendu son âme au diable?
Ah oui.
Ou alors, est-ce qu'un passant lui a juste accordé sa guitare et que c'était finalement à cause de ça qu'il jouait mal? Ou alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre?
Belle hypothèse.
Ouais, mais peut-être, hein, tout simplement, elle n'était pas accordée, sa guitare. On va donc revenir un peu plus tôt pour comprendre ce qu'a fait Robert durant son absence de 2 ans. Et on sait plusieurs choses. D'abord, on sait qu'il met pas longtemps à trouver une nouvelle femme, parce qu'il était quand même, il est quand même beau garçon. Cette femme s'appelle Calietta. Elle a 10 ans de plus que lui, et il se marie secrètement avec elle en mai 1931. A priori, ça se passe bien avec elle. C'est d'ailleurs sa plus grande fan. Elle décide donc de rester à la maison et de s'occuper du foyer pour que lui, il puisse passer du temps à travailler sa musique. Bon, bien sûr, Robert doit travailler la journée, mais le soir, il passe tout son temps à s'entraîner à la guitare. Et c'est là qu'il rencontre un homme qui va changer sa vie. Il s'appelle Ike Zimmerman. Et cet homme, c'est un bluesman qui va devenir son mentor. Il décide donc de le prendre sous son aile et de lui apprendre tout ce qu'il sait. Mais Robert, en plus de ça, quand il n'est pas avec Ike, bah, il continue de s'entraîner à jouer de la guitare, tard le soir. Il paraît même que pour déranger personne, il joue dans des cimetières.
Oh.
Alors ça, je sais pas si c'est vrai de vrai ou si c'est juste pour un peu augmenter la légende, mais c'est ce qui se dit. Et quand il s'entraîne pas, il court les tavernes pour se produire les samedis soirs. Et à force d'acharnement, il commence à avoir une petite réputation dans la région. Et donc ça, c'est la version officielle qu'on sait aujourd'hui grâce à certains témoignages. Mais le truc, bah, c'est que ça explique pas tout. Déjà, parce que Zimmerman, c'était pas non plus une star ou un génie de la musique. C'était un musicien comme un autre. Il avait clairement pas le niveau de guitare de Robert à son retour après les 2 ans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en parlant de niveau de guitare, il y a le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards. Il a raconté que la première fois qu'il a entendu la musique de Robert Johnson, bah, il a demandé qui c'était. On lui a répondu, bah voilà, c'est Robert Johnson. Et lui, il a dit, bah non, le deuxième guitariste avec lui. Et quand on lui a dit bah, qu'il n'y avait que Robert Johnson à la guitare, il a répondu que le mec devait avoir 2 cerveaux pour jouer comme ça. Donc c'est vraiment pour dire qu'il avait une technique de folie. Elle était compliquée, tu vois, t'en parlais, elle était compliquée à apprendre et à perfectionner en seulement 2 ans.
Mais déjà, tu me disais tout à l'heure qu'il jouait de l'harmonica en faisant de la guitare. Et ouais. Genre typiquement, ce genre de truc qui me paraît impossible à faire, quoi. Comment tu peux te coordonner à ce point?
C'est comme chanter et jouer de la guitare, ça va.
Ah ouais? Attends, mais il faut... En fait, tu dois faire des notes sur l'harmonica quand même. Il y a un délire, je pense, au niveau de la position de la tête et tout. Ça doit pas être facile, en vrai.
Mais en fait, t'as deux mélodies en tête. C'est comme quand tu chantes, tu vois. Tu chantes pas la même mélodie que tu joues à la guitare. Donc, tu vois, moi, ça me choque pas, par contre.
Okay. Mais après, peut-être parce que t'es plus musicose que moi, du coup. Moi, ça me fait... Enfin, pour moi, c'est de la magie, presque.
Ouais, peut-être. Il y a voleur de ciseaux que c'est une technique avec des écouvillons, a priori.
Des écouvillons contaminés.
Bien sûr, ouais. Moi, tu vois, c'est pas ce qui me choque le plus, tu vois. Pour moi, c'est plutôt la technique de guitare.
Oui, bah, je pense qu'après, quand tu joues à la guitare, je pense qu'il y a des trucs qui doivent te sauter aux yeux. Mais genre, moi, c'est vrai que les instruments, pour moi, c'est presque de la magie. Genre, typiquement, l'accordéon, genre, c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que c'est un piano, mais que tu dois actionner, genre, avec tes bras. Enfin, c'est, pour moi, ça me paraît fou, quoi. C'est, pour moi, c'est presque l'instrument du diable, le truc.
Ça, c'est peut-être chaud à jouer, ouais, l'accordéon, ouais. J'ai jamais essayé. Ok, donc je continue. Donc effectivement, technique a priori compliquée à apprendre et à perfectionner en 2 ans. Et l'autre truc intriguant, c'est que de son vivant, Robert Johnson, il a jamais mentionné cette période de sa vie. Il a jamais parlé de sa femme, ni de Zimmerman. Donc là, on reprend l'histoire là, au bout de 2 ans. Il revient avec un don. Et comme sa technique est super impressionnante, que personne comprend comment il arrive à jouer aussi bien, bah, il commence à pas mal tourner dans la région bah, où il habitait avant. À ce moment-là, il n'a pas de répertoire musical à lui. C'est, comme c'est un musicien itinérant, bah, les gens lui demandent des chansons et il est toujours en mode « Ouais, ok, pas de souci, tu vois, et puis il les joue. » Et il a la faculté de tout retenir pour pouvoir jouer n'importe quelle chanson qu'il a écoutée auparavant. Le mec, il est vraiment devenu trop fort. Et ça encore, tu vois, encore une fois, ça se fait. C'est quelque chose qui, tu vois, il y a pas mal de gens, tu leur dis « Bah, est-ce que tu peux jouer ça ?» Et ils le font. Mais le truc, c'est que 2 ans auparavant, il était très mauvais, quoi. Donc forcément, son nom commence à tourner un petit peu partout. Il a de plus en plus d'opportunités qui s'offrent à lui. Et la plus importante d'entre elles, c'est son rêve depuis qu'il a commencé à jouer. Et, cette opportunité, elle est arrivée en 1936. Et c'était l'enregistrement d'un disque en studio. Bon, quand je dis en studio, c'était dans une chambre d'hôtel, hein, à l'époque. Hein, c'était pas non plus... c'était compliqué d'avoir des vrais studios. voilà, c'est ce qu'on écoute actuellement, hein, donc ça fait le taf. Hein. Et donc, cette première session, elle a commencé le 23 novembre 1936, et elle s'est étalée sur 3 jours, le 23, 26 et 27 novembre. Donc, c'était dans une chambre d'hôtel, et il y a 16 titres qui sont enregistrés et qui deviennent rapidement un succès avec 5000 exemplaires vendus. Donc, faut qu'on se rappelle, hein, on est dans les années 30, 5000 exemplaires, c'est pas rien, quoi. Il y a une autre session d'enregistrement de 2 jours qui a eu lieu les 19 et 20 juin 1937 à Dallas, et ça lui permet d'enregistrer 13 autres titres. Donc au total, Robert Johnson aura donc enregistré 29 titres en seulement 2 sessions d'enregistrement. C'est tout. D'ailleurs, il existe aussi que 3 photos de lui qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a pas non plus de vidéo, hein, à l'époque c'était compliqué. Et donc il y a très peu de traces. Et comme tu t'en doutes, sa carrière... elle s'est arrêtée soudainement, car s'il y a eu pacte avec le diable, ben le diable reprend toujours son dû. Et le 16 août 1938, il va mourir. Terminado. Forcément, de façon mystérieuse. Déjà, première chose, il meurt à l'âge de 27 ans, ce qui fera de lui le premier membre du club des 27, donc les artistes qui sont morts à l'âge de 27 ans, pardon, comme Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, il y en a plein d'autres comme ça. Et donc, comme les circonstances sont mystérieuses et contestées, on a plusieurs versions. Ce qu'on sait de manière à peu près sûre, c'est qu'après un concert dans un bar de Greenwood, il se sent mal et il est emmené chez un ami. Là où ça diffère après, c'est que certains pensent qu'il a été empoisonné par un mari jaloux, parce qu'il était assez coureur de jupons, si tu vois ce que je veux dire. Il y en a d'autres qui pensent qu'il a succombé à la syphilis ou à une pneumonie. Il n'y avait pas de traitement à l'époque, hein. Il y a un autre bluesman qui racontera plus tard que Robert Johnson aurait consommé une bouteille de whisky empoisonné qui aurait été offerte par le tenancier d'un bar, jaloux de le voir tourner autour de sa femme. A priori, il aurait agonisé 3 jours avant de mourir quand même. Hein.
Wow.
Sur son certificat de décès, à côté de « cause de la mort », on trouve la phrase « pas de docteur ». Donc sans doute dans le sens où il n'y avait pas de docteur pour nous révéler la vraie cause de sa mort, quoi. Et donc forcément, avec une fin comme ça, bah, ça entretient la légende, d'autant plus qu'il a par la suite été considéré comme l'un des artistes, bah, comme je l'avais dit, bah, qui a influencé les générations suivantes. Il a d'ailleurs été élu au Panthéon du rock en 1986. Et bien sûr, il reste encore plusieurs mystères suite à sa mort. Déjà, il y a un énorme cyclone qui a ravagé l'endroit où il est mort 4 ans plus tard. Bon, c'est pas vraiment un mystère, c'est plus une coïncidence sympa, quoi.
Ouais.
Ensuite, on sait pas vraiment où il a été enterré. Il existe à l'heure actuelle 3 pierres tombales qui pourraient indiquer des lieux possibles où il repose, mais on n'est pas vraiment sûr et au final on va pas s'amuser à creuser pour savoir pour avoir la réponse, quoi. Ça vaut pas le coup.
Mm.
On dit ensuite que Robert Johnson aurait emprunté son histoire de pacte avec le diable à un autre bluesman, Tommy Johnson, qu'il aurait adapté pour se forger sa légende, mais j'ai pas plus d'infos que ça sur cette autre personne.
Mm.
Et dernière chose, sa guitare que le diable aurait accordée n'a jamais été trouvée après sa mort, comme s'il l'avait emmenée avec lui pour son dernier voyage.
Wow.
Et donc voilà, vous connaissez maintenant tous les mystères autour de la vie et de la mort de Robert Johnson, le bluesman qui aurait vendu son âme au diable pour devenir une légende. Et c'était un peu stylé avec la musique en fond, je trouvais.
En vrai, ouais, moi j'étais à fond dedans. Hein. Ouais, du coup, c'est incroyable. Est-ce que moi je le connaissais pas du tout, ce chanteur. Après, j'écoute pas énormément de blues. Mais du coup, je suppose que dans le milieu du blues, c'est une histoire qui est archi répand, archi connue, non?
Surtout que le blues, le vaudou, les années 30, les années 20, tu vois, t'as une petite aura sympa, quoi, qui
complètement, ouais.
Qui donne envie de raconter cette histoire et je pense qu'effectivement dans le milieu du blues, sachant qu'il était pas mal influent, ça allait pas mal connu, quoi.
J'aime beaucoup sa musique, en tout cas je pense que je vais essayer de choper ça sur Deezer tout à l'heure avant de m'endormir.
Et ben il est partout sur les internets, hein, Robert Johnson. Par contre effectivement, ouais, il y a que 3 photos de lui et il a laissé peu de traces, mais il a quand même laissé 29 titres.
Ouais, il a une carrière toute petite. fulgurante.
Bah c'est ça.
Et peut-être que ouais, s'il n'était pas mort en fait, peut-être que cette légende aurait pas du tout, enfin mort dans des circonstances étonnantes. Peut-être que cette histoire aujourd'hui on n'en parlerait absolument pas. Le pacte avec le diable et tout, enfin tu vois, ça serait pas resté, je pense.
Ouais, je pense qu'on en parle parce qu'effectivement il y a l'histoire que lui-même racontait, comme quoi il avait pactisé avec le diable, et puis il y a les circonstances de sa mort qui sont assez mystérieuses. Peut-être qu'effectivement, si lui, il n'avait pas entretenu la légende déjà de son vivant, on n'en parlerait pas.
Et du coup, tu disais qu'il est mort au bout de 3 jours d'agonie. Est-ce que pendant ces 3 jours, il a déliré, il a dit des choses ou...
Malheureusement, elle est très très peu documentée, cette enquête. Enfin, cette affaire, sur Internet. Et le seul document qu'on a, hein, c'est l'acte de décès, cause de la mort, nos docteurs, quoi. Et quelques témoignages de l'époque, notamment l'autre bluesman qui disait que c'était le tavernier qui l'avait empoisonné. Jusqu'encore, il y a début des années 2000, tu vois, il restait encore quelques bluesman qui étaient encore en vie, qui l'avaient connu à l'époque.
Je me demande s'il n'y a pas... Parce que je regardais sur Internet, là, du coup, j'ai essayé d'aller regarder sur Internet, mais j'ai pas trop forcé parce que j'avais peur que ma connexion pète. Mais j'ai l'impression qu'il y a des biopics qui ont été faits sur lui.
Je crois même qu'il y a des documentaires aussi, ouais. Ouais, ça peut être cool pour ceux qui veulent en savoir plus. Après, je pense pas qu'il y aura, on apprendra grand chose de plus. C'est juste que ce sera sûrement peut-être un peu plus romancé ou quoi que ce soit, quoi. Parce que comme je te le disais, on a très peu d'infos. On a juste en fait sa légende et ses chansons qui restent. Et je pense que c'est aussi, c'est tout ce qu'il voulait, tu vois. On est en 2023, tu vois, 90 ans après sa mort, on en parle encore, quoi. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi, Kurt, pour la co-animation. C'était super cool. Malgré le lag et les petits problèmes techniques, on aura quand même réussi à s'en sortir.
Ben oui, je suis navré parce qu'à chaque fois que je viens chez toi, en fait, j'ai l'impression de tout foirer au niveau technique. Mais moi, je suis ravi que tu m'aies invité. En tout cas, c'est cool.
Bah, y a pas de souci. Et c'est le moment promo pour toi. C'est ton moment là. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu fais sur les internets? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu nous prépares pour Halloween au hasard? On veut tout savoir.
Mais oui. Alors, Kurt, donc sur les internets, j'avais une chaîne YouTube, là je pense que j'ai fait le deuil un peu, qui parlait de science-fiction, c'était vachement cool, mais j'ai plus le temps. Je fais aussi du podcast avec Mana et Plasma, là on est en petite pause estivale, mais vraiment un été qui s'est un peu étalé, donc mais on devrait pas tarder à reprendre.
C'est l'été indien, quoi.
Ouais, c'est l'été indien, exactement. Bah, on s'est adapté en fait au réchauffement climatique, je pense. Et du coup, je suis aussi sur Peggy 18, un podcast avec l'équipe de VHS et Canapé où on parle de JV un peu bourrin. J'ai beaucoup d'actu en fait, okay. Je me rends compte. Et pour finir, du coup, Obscurum, qui est mon podcast qui fait peur. Qui arrivera c'est sûr maintenant, je donne la date. Il arrive le 31 octobre avec un premier épisode qui sera consacré à la Dame Blanche. Et ça va être cool, ça va faire peur, et ça va être vachement bien de tous vous faire flipper. Je suis impatient.
Bah trop bien, mais maintenant que tu l'as annoncé, de toute façon t'as plus le choix.
Exactement, c'est resté gravé sur les internets.
Et moi, de mon côté, je profite de cet épisode parce que j'ai 3 annonces à vous faire. La première, c'est qu'avec Indigo, on va enregistrer le prochain épisode d'Avant d'aller dormir dans les studios du Paris Podcast Festival le 14, à 13h. Donc, vous pouvez y assister, c'est à la Gaîté Lyrique, c'est gratuit. Bon, par contre, c'est valable seulement si vous êtes sur Twitch maintenant, parce que là, au moment où l'épisode sera diffusé, eh bien, ce sera trop tard, mais vous l'écouterez quand même en rediffusion, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes en podcast, j'ai une deuxième annonce qui devrait vous plaire. Le 27 octobre, sur la chaîne Twitch des Antipodes, on va organiser un live avec Vanille, Dan, Xara et Indigo pour passer la fin du mois de l'horreur avec vous. Au programme du mystère et du fun, voilà, je sais pas trop comment vous le vendre parce qu'en fait le programme n'est pas encore tout à fait défini. Ça sera à partir de 21h30 sur twitch.tv/lesantipodes. Allez, c'est garanti à 85% sans problème technique. Dernière annonce, c'est qu'avec tout ça, avec le Paris Podcast Festival, avec le live et tout, j'ai décidé après de retourner dans ma grotte, pendant quelques mois pour prendre un petit peu de force. Donc si vous êtes là, vous êtes actuellement en train d'écouter le dernier épisode de la saison 2 du Rendez-vous de l'étrange. Je sais pas encore quand je vais revenir, mais je vais continuer à poster sur Patreon pour vous donner des nouvelles. Je suis en train de réfléchir à la suite pour l'émission. C'est possible que je revienne avec une nouvelle formule. Donc, wait and see. Et sinon, même pendant la pause, hein, vous pouvez suivre le rendez-vous sur Instagram. Il y aura toujours des lives sur la chaîne twitch.tv/jesuisop. Abonnez-vous. On est aussi sur Patreon, d'ailleurs, j'en parle. C'est à partir de 0€ par mois en cliquant sur le bouton « Rejoindre la communauté ». Ou alors des fois c'est devenir membre, je sais pas, à chaque fois que je vais sur la page Patreon c'est jamais le même wording, donc mais en tout cas on peut rejoindre gratuitement. Vous aurez accès à tous les mois aux épisodes de Mauvaises Rencontres. C'est le podcast dans lequel je livre des témoignages réels de personnes qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. C'est plutôt cool. Mmh. Et si vous décidez de mettre quelques deniers, de soutenir financièrement mon travail, vous aurez accès à des bonus supplémentaires comme les épisodes avant tout le monde, des coulisses ou encore un épisode privé, voilà, du rendez-vous par mois. Et donc voilà, je crois que l'instant promo pour nous deux est fait. Tout est dit. Merci à toi encore, Kurt.
Non, merci à toi plutôt.
Il y a pas de souci. À bientôt tout le monde et bah, prenez soin de vous. Bisous.
Salut.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.